Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle édition du journal des auditeurs, votre émission pour commenter l'actualité sur Africa Radio. Aujourd'hui, dans le JDA, nous attendons vos commentaires et analyses sur la rentrée du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le parti présidentiel en Côte d'Ivoire est donc entré en campagne, plutôt confiant. Quel sera son discours sur la réconciliation, un thématique privilégié par la classe politique ivoirienne? Et le RHDP doit-il craindre une candidature de Guillaume Soro? Et d'ailleurs, qui sera le candidat du RHDP pour la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire? Pour nous faire part de vos commentaires, posez vos questions à notre invité. Appelez-nous dès maintenant au 33 1 55 07 58. 00, nous serons en studio avec Tidiane Koné, il est président du comité d'organisation de la rentrée politique du RHDP France. 33 1 55 07 58 00, c'est le numéro à composer si vous souhaitez participer. Mais avant cela, comme de tradition, on se tourne vers le répondeur d'Africa Radio pour écouter une sélection de vos messages.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Bonjour Africa numéro 1. Bonjour tous les auditeurs. Moi, c'est Dramé Bachili. Donc, je vous appelle par rapport au racisme qui sévit dans les stades. Pour moi, bon, les joueurs aussi sont coupables. Normalement, si on gère et sifflé dans le terrain, et que ces joueurs décident de quitter ses compagnons, normalement, ses compagnons aussi doivent le suivre. Mais pour moi, ils sont tous des complices. Ok, au revoir.
Allô, bonjour à Africa Radio. Bonjour à tous les auditeurs africains numéro 1. Tefani, c'est Djara Lassana. Bonjour Tefani. Lassana Djara. En fait, je parle toujours au Mali. Voilà, c'est malais. Je parle pour vous, c'est Rizan. S'il te plaît, je vous en prie, tout le monde, tous les Maliens, l'intérieur à l'extérieur, tout le monde, on reste en debout, c'est Rizan. On ne peut pas rester un président comme ça, président cadavre comme ça. Excusez-moi, j'ai en colère un peu. On ne peut pas rester à Ibeka comme ça des années jusqu'à 2023, c'est pas possible. Voilà.
Bonjour Stéphanie, bonjour Dr. Africa Radio, bonjour l'Afrique. La politique de la RDC devrait inquiéter la population de ce pays. En fait, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi ont signé un pacte disant que le cash va faire un mandat de 5 ans et après Joseph Kabila reprend les commandes. Bon, ça c'est connu de tous parce qu'il y a eu un deal, sinon Félix Tshisekedi ne passait pas à la magistrature suprême, sachant que c'est Fayulu qui a été élu. Bref, ils étaient en communication depuis très longtemps, en contact direct. Et là, ça devient un peu compliqué parce que Félix Tshisekedi, tout le temps, il est en voyage. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherche par-ci, par-là. Et comme Joseph Kabila est discret, il ne sort pas beaucoup, il est chez lui. Donc, on n'entend plus parler que notre voilà, ils étaient ensemble. De notre côté, on voit Martin Fayulu, qui est ici, en Europe, il est parti par-là, donc à l'étranger, pour chercher les partenaires et tout. Je ne sais pas pour faire quoi, point d'interrogation aussi. De l'autre, à un moment, on voit Moïse Katumbi qui a fait une descente à Kindu, j'ai vu, avec Francis Kalumbo, qui est en train de dire voilà comment est-ce que la foule est descendue pour venir accueillir le chairman, machin, tout. Lui aussi, il est en train de jouer à son électorat pour 2023. Jean-Pierre Mbemba est muet. On ne le voit pas, très discret, il ne parle pas depuis leur première sortie jusqu'à aujourd'hui. En fait, chacun joue son jeu. Pour son intérêt propre. Là, c'est connu, mais qu'ils ne sont pas pour le peuple tous. Donc, tout ce qu'ils veulent, c'est être à la magistrature suprême pour qu'ils fassent des hommes de valeur, de poids, je ne sais pas comment, pour qu'ils, le monde entier, le connaissent.
Oui, allô, bonjour, chers auditeurs Africa 24. Oui, moi, je tenais à intervenir surtout sur la politique africaine. Aujourd'hui, les Africains eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'ils veulent. Les chefs d'État, les soi-disant chefs d'État que nous avons mis au pouvoir, ne pensent qu'à leur gueule, à leur famille, et c'est tout. Je prends le cas d'Alpha Condé aujourd'hui, qui est en train de tuer ses propres fils, du pays. Et les militaires à qui on donne les ordres ne peuvent pas faire comme les Algériens. Ils ne peuvent pas faire comme les Burkinabés. Démissionner, dit non, on ne tue pas sur nos frères. C'est sur ça, moi, je vais intervenir. D'accord. Donc, c'est M. Djalilou Mohamed Sharif. Merci.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Aujourd'hui dans le JDA, la rentrée du RHDP, on parle bien sûr de politique ivoirienne et nous en parlons avec Tidiane Koné. Tidiane Koné, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu jusqu'à nous. Vous êtes président du comité d'organisation de la rentrée politique du RHDP en France. C'était ce week-end. Le RHDP a donc lancé sa campagne d'adhésion. Il est même impossible maintenant d'adhérer en ligne. Le slogan de cette rentrée à Paris était le RHDP, la garantie hein, d'une paix durable et d'une émergence assurée. On va mettre les pieds dans le plat pour ouvrir l'émission, Monsieur Tidiane Koné. Alors, si je me souviens bien, l'émergence était déjà une promesse de campagne hein, d'Alassane Ouattara avec un objectif précis, hein, c'était émergence 2020. Force est de constater quand même que les chiffres ne sont pas au rendez-vous. L'émergence peut-elle encore faire l'objet d'un programme, Tidiane Koné?
L'émergence, c'était un objectif et nous l'avons quasiment atteint, cet objectif-là, avec les résultats qu'on voit en Côte d'Ivoire. On voit
bien des chiffres, que peut-être, mis à part la croissance, l'émergence, c'est aussi voilà un niveau d'éducation.
C'est un niveau d'éducation. Mmh. On a un nombre d'écoles, on a plus de 8000 écoles construites en Côte d'Ivoire. On a plus de 5600 villes électrifiées en 8 ans et je vous dis plus de 5000 ville électrifiée, pendant qu'en 15 ans, on en a électrifié le même nombre en 8 ans. Et donc, je peux dire qu'au niveau de l'adduction d'eau potable, on a multiplié quasiment par 4 ou 5 le nombre de populations qui ont accès à l'eau potable. On a ouvert des centres de santé partout en Côte d'Ivoire. On a ouvert 5 ou 6 CHA en Côte d'Ivoire. On a mis des systèmes de santé pour que des systèmes pour que la population puisse accéder à des comptes électriques à bas prix. On a utilisé, la Côte d'Ivoire a travaillé pour qu'une croissance soit en place et qu'elle soit maintenue. Et cette croissance maintenue a créé de la richesse. Et cette richesse a été redistribuée à toute la population. En construisant des routes, vous êtes d'accord au niveau économique, on dit non, n'en parlons pas, mais il faut qu'on en parle.
On mange pas les routes, on dit surtout en Côte d'Ivoire.
Bon, on mange pas les routes, mais permet de manger après, parce que la route, c'est si la route que,
alors,
que la nourriture.
Si j'ai bien compris, on est à deux doigts d'atteindre l'émergence en 2020. Donc 2020, on avait juste un peu de retard, c'est ce que vous dites?
On a eu parce que, vous savez,
L'émergence était faite, elle ne serait pas de nouveau un slogan aujourd'hui.
Je vous dis que la vie politique n'est pas un long fleuve tranquille. On a des réalités sur le terrain. On a eu quelques incidents qui sont sur le plan international. Par exemple, le prix du café cacao qui a bougé. Cela ne dépend pas de la Côte d'Ivoire. On a eu quelques crises internes qui ont été gérées. Et tout ça a ralenti l'émergence effective en 2020. Mmh. Mais quand on gère un pays, il y a des réalités qu'il faut prendre en compte. On a des objectifs, il y a des réalités qui viennent et ces réalités, il faut les corriger. Quitte à ce qu'on perde l'émergence 6 mois de retard, 3 semaines de retard, 6 mois, 4 mois de retard et que on résout ces problèmes immédiats, je pense que c'est ça un gouvernement et un président responsable.
Très clair. Alors, oui. On entend le RHDP rentrer en campagne et bien rentrer en campagne. On va tout de suite donner la parole aux auditeurs. Vous savez, c'est leurs émissions. On se dirige vers Conakry, retrouver Tierno. Tierno, bonjour. Ah, non, c'est de ma faute.
Bonjour,
excusez-moi. Voilà. Bonjour.
Alors,
Tierno.
Bonjour.
Hein. Bonjour,
allô.
Tierno. Bienvenue.
Oui, bonjour et bonjour aux auditeurs et à votre invité du jour.
Allez-y, il vous entend, allez-y.
Bon, d'accord, moi je pense que l'heure n'est pas au bilan des infrastructures en Côte d'Ivoire. Moi je pense que M. Alassane Ouattara, il est arrivé au pouvoir suite à une crise post-électorale qui a enduit plusieurs familles. Il y a eu des meurtres, il y a eu des pillages, il y a eu beaucoup de... Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que l'État ivoirien, RHDV, en sa tête, M. Ouattara a fait pour rendre justice aux milliers de victimes ivoiriennes? Qu'est-ce qu'il a fait au niveau interne? Parce que nous savons, au niveau...
Il a... Si je comprends bien, Tierno, vous parlez, parce qu'on a eu un petit souci de son au début, vous parlez de la réconciliation, c'est bien ça. Hein, vous dites, qu'est-ce qu'a fait le président Alassane Ouattara pour la réconciliation?
Je parle non seulement de la réconciliation, mais aussi de la justice. Parce qu'au niveau de la CPI, Gbagbo a été acquitté, Sal de Goudé aussi a été vraiment relâché. Moi, je pense qu'au niveau de la justice nationale, au niveau en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que les Ivoiriens ont eu? Est-ce qu'il y a eu des dommages? Est-ce qu'il y a eu justice à l'interne? Parce que les Ivoiriens avaient plus besoin d'une justice que des infrastructures sanitaires scolaires en Côte d'Ivoire après l'arrivée de M. Ouattara, parce qu'il y a eu plusieurs victimes. Il y a eu plusieurs victimes. Donc, moi, je pense qu'au niveau du bilan, c'est ce bilan de la justice que nous devons présenter au peuple ivoirien. Je parle des infrastructures, nous le savons. Comme on a l'habitude de faire.
Donc,
ici.
Vous vous demandez le bilan en matière de justice. Alors tiens, on va accélérer un petit peu parce que voilà, ça se bouscule du côté au standard. Vous êtes nombreux à vouloir poser des questions. C'est votre seule question, Tierno. Vous avez peut-être une question sur Soro aussi, je crois. Non. Bon.
Oui. Moi, je pense que je disais que aussi l'élection, s'il y a des élections libres et transparentes, RHDP seul, sans Bégué et Soro, nous ne pouvons pas obtenir les résultats qu'il faut pour conserver le pouvoir au-delà de 2020. Parce que si on prend l'histoire de ces pays, si on prend dans les années 91-92, c'était Ouattara et Bégué, l'autre à l'Assemblée, l'autre à la primature. Yaï a divorcé entre eux, puis Ouattara rejoint Bago. Il y a eu l'opposition. Par après encore, Bagbo a dirigé la Côte d'Ivoire, Bédié et Ouattara ont fait une alliance électorale. Finalement, ils ont dérouté M. Bagbo en 2011. Je pense que RHDP seul, sans Bédié et Soro, c'est pas quelque chose qu'ils ne vont pas obtenir la majorité.
Merci Tierno, merci beaucoup. On a bien compris hein, Tierno qui dit finalement, voilà, le RDR, en tout cas, le Alassane Ouattara est minoritaire. Merci Tierno. On va tout de suite vous laisser répondre, Tidiane Koné. Alors, je vais vous demander de faire des réponses un peu directes et brèves pour... Attendez, c'est moi qui ai coupé votre micro pour qu'on puisse aller jusqu'au bout. Sur la question de la justice, qu'a été fait? D'ailleurs, j'en profite pour lire ce message d'Angèle qui dit, à mon avis, le RHDP a déjà choisi la justice comme stratégie de réconciliation. Pour le RHDP, le camp Gbagbo est responsable de tous les crimes de la crise post-électorale. Malheureusement, pour le RHDP, le rapprochement de Soro et du camp Gbagbo prouve que le RHDP a échoué dans sa politique de réconciliation. Sans justice équitable, de la réconciliation ne sera jamais vraie. On le voit, hein, la réconciliation est un thème dans tous les partis de l'opposition.
Je pense qu'il faut, il faut qu'on ordonne les choses, parce que dans les propos de M. Tierno, il y a plusieurs sujets qu'il aborde, les dommagements, la justice, les Ivoiriens ont besoin de plus de justice. Je pense que les Ivoiriens n'ont pas besoin de plus, les Ivoiriens ont besoin de tout.
D'une justice indépendante, peut-être.
D'une justice indépendante aussi, et de pouvoir avoir un pouvoir d'achat aussi, de pouvoir là mettre leurs enfants à l'école aussi, de pouvoir avoir de l'eau potable aussi. Les Ivoiriens ont besoin de tout ça, donc il n'y a pas besoin que de justice. La justice s'est construite juste après la crise électorale, la crise post-électorale, et elle a mis en place des mécanismes. Et ces mécanismes ont marché, ces mécanismes, il y a eu des procès.
Mais quand on amnistie le directeur de cabinet de Guillaume Soro sans même qu'il ait été jugé, donc est-ce que la justice est-elle vraiment indépendante en Côte d'Ivoire aujourd'hui?
La justice est indépendante en Côte d'Ivoire. La justice est indépendante. On dit, quand Alassane fait des grâces, on dit, il outrepasse. Il a attendu que la justice se prononce. Les condamnations ont été prononcées.
Ce n'est pas le cas du directeur de cabinet de Guillaume Soro, dont on a trouvé des armes. Il n'a jamais été jugé.
Il n'a pas. Vous avez un courrier, vous avez un message disant qu'il a été armicié ou le juge a mis armicié. Non, on le dit. Il y a ce qui est dit pour discréditer et il y a les faits juridiques. Il faut prendre les faits juridiques. L'écrit du juge, le lire et dire ça, c'est un fait juridique. Donc il faut aller. On raconte beaucoup de choses. Donc pour aller un peu plus vite, quand vous me dites, au niveau du dommagement, il y a bien des entités qui ont été mises en place. Il y a eu au départ la CDVR qui a été mise en place, qui a été là pour réconcilier, pour que les Ivoiriens échangent entre eux, pour que les Ivoiriens apprennent à se comprendre, qui se pardonne. Hein. Et après, on a mis la CONARIV qui est actuellement en cours de route. Et c'est cette CONARIV-là qui indemnise toutes les personnes qui ont été identifiées au niveau de la CDVR. Et cela continue. On a Mariatou Koné, qui est la ministre, qui continue toujours à indemniser les gens. Donc, je lui dis, ce processus est en cours. Et le second point, quand on parle de la CPI, la CPI, c'est une justice.
Voilà, on est surpris, voilà, que finalement, l'État ivoirien veulent rajouter, en tout cas, nourrir l'appel, hein, de la procureure concernant le Laurent Gbagbo et Charles Béguet.
C'est une justice indépendante. Le président de la République, Alassane Ouattara, ne va pas prendre son téléphone. Madame Bensouda, libérée, mettant en prison. Quand même, soyons sérieux. C'est une justice internationale. Hein. La Côte d'Ivoire n'a pas d'impact sur cette justice. Cette justice a des. Cette justice Ouais, c'est justice.
Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est partie civile dans l'État ivoirien. Oui, elle est partie civile, elle a des avocats.
Mais c'est normal. Elle a des avocats. Mais c'est entièrement normal. C'est dans le cadre de la procédure judiciaire. C'est dans le cadre de la procédure judiciaire.
On rappelle quand même qu'il y a eu des échanges avec Louis Moreno au Campo et Sarkozy.
Il faut dire que, mais cela n'est pas dit.
En 2010.
Cela n'est pas dit qu'il y ait des échanges avec un juge, à moins que vous mettez en cause l'intégrité de ce juge-là. Là, c'est un autre débat. Là, je ne vais pas entrer dedans.
Le procureur, d'ailleurs.
Le procureur, je ne veux pas entrer dans ce débat-là. Si vous mettez en cause l'intégrité d'un procureur, là, mes limites sont là. Je ne connais pas ce procureur. Mmh. Et le second point, quand il nous dit que Cyril Guillaume et Bédier qui quittent, dans la coalition, je vais dire que, M. Tierno, je suis désolé de vous le dire, mais vous avez une photographie dépassée.
Donc Alassane Ouattara, le RDR est aujourd'hui majoritaire au sein du...
C'est pas le RDR, c'est le RHDP. Je vais préciser. Il a une photographie dépassée de la recomposition politique en Côte d'Ivoire. Dans tous les pays, il y a des évolutions et des recompositions politiques. Les paysages actuels de la politique ivoirienne n'est plus la même que celle de 2010.
Moi, j'avais une question qui découlait de ça, là. Alassane Ouattara est quand même arrivé au pouvoir avec ses deux alliés, Guillaume Soro et...
Si vous me laissez terminer,
je vais compléter. Est-ce que finalement, aussi, le fait que ses deux principaux alliés, aujourd'hui, à l'aube de 2020, l'aient quitté, démontre aussi peut-être une difficulté à rassembler d'Alassane Ouattara?
Je termine ma démonstration. Hein. Le PDCI s'est divisé en 3 ou 4 morceaux. Ce n'est plus le PDCI d'antan. On a su les traces du fouet, on a Renaissance qui étaient des partis politiques, qui étaient des membres du RHDP. Le FPI s'est décomposé en commune de partis et en commune de tendances. On a
Est-ce
AFI.
Que le pouvoir actuel a des responsabilités dans la division de ces partis?
Mais c'est la vie politique. C'est la vie politique. Ce sont les ambitions dans chaque parti. Cela existe en France, ça n'a choqué personne. Et donc, je veux dire que le PDCI ne soit plus le PDCI de 2010, parce qu'il y a 3 ou 4 partis dans le PDCI actuellement, que le FPI ne soit plus le FPI de 2010, le FPI, on a le FPI AFI, on a le FPI Gbagbo, on a le FPI Abdoulaye Sangaré, on a la tendance Simone, on a le FPI Blégoudé.
Donc, vous divisez plus qu'il ne l'est, vous êtes dur avec
non, je vous donne la réalité du FPI. Et dans cette tendance du FPI, il y a celui en plus, je vais pas parler de celui de Alessi Djedjé, qui a rejoint le RHDP. Quand on vous parle du PDCI, le PDCI n'est plus monolithique d'antan. On a le PDCI d'Aoukro, on a su les traces ou fouet, on a Renaissance. Sur les traces ou fouet et Renaissance ont bien rejoint.
Je pense que cette démonstration est faite. C'est-à-dire que vous dites, voilà finalement, recomposition du parti, du paysage politique, donc, elle nous profite.
Elle nous profite pas, c'est parce que le RHDP est rassembleur qui vient vers le RHDP.
Voilà. Alors, on va donner la parole aux auditeurs. On va écouter peut-être Ruffin, bonjour.
Oui, bonjour Madame Stéphanie.
Bonjour Monsieur Ruffin.
Bonjour Monsieur Ruffin.
Oui, ma première question que j'aimerais poser au monsieur, je n'ai pas oublié.
Tidiane Koné.
Stéphane Koné.
Tidiane Koné.
Tidiane Koné, merci beaucoup Madame Stéphanie. Déjà, bonjour à tous les auditeurs d'Africa Radio. Alors, moi, en tant qu'Africain, c'est vrai que je ne connais pas les tenants, les aboutissants ou les réalités de la Côte d'Ivoire, mais le souci en tant qu'Africain, c'est surtout la paix. Parce que la paix consolide les institutions, les acquis d'un État. Si nous voulons arriver à l'émergence, peu importe le nombre des années que ça peut prendre, c'est surtout la paix. Est-ce que, la première question que je vais lui poser, qu'est-ce qu'il prévoit faire pour que il y a une véritable réconciliation en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la première. La deuxième, est-ce que l'État ivoirien, étant donné qu'il y avait 2 partis qui s'est battus, et aujourd'hui, il y a une seule partie qui se retrouve à la haie, est-ce qu'ils ne peuvent pas mouiller le maillot pour que M. Gbagbo puisse revenir en Côte d'Ivoire, qu'il y ait une véritable réconciliation? Merci.
C'est très clair. Vous voyez, hein, Tidiane Koné, on retombe sur les mêmes questions, j'ai envie de dire.
Bien entendu. C'est normal, je suis là pour expliquer, pour y expliquer.
Faire œuvre de pédagogie.
Oui, comme vous le dites, oui. Pour la paix, je pense que le président Alassane Dramane Ouattara a mis en place tout ce qu'il faut pour la paix, pour réconcilier les Ivoiriens. Dans un premier temps, juste après les procès, il y a un bon nombre de, il y a eu les 8000 personnes qui ont été graciées. On a actuellement la quasi-totalité des réfugiés qui retournent dans le pays. Hein, on a des dons de ministres connus qui sont retournés comme Lida Kouassi. Ce sont des figures emblématiques du FPI qui sont rentrées dans le pays. On a quasiment 97% des réfugiés politiques qui sont rentrés. Maintenant, je veux dire, et avec ça, ces Ivoiriens qui sont rentrés, ceux qui étaient fonctionnaires, ont retrouvé leur poste.
Tidiane Kone, vous allez dire que je ne vous laisse pas développer, mais je vais ajouter la question. Effectivement, vous parlez là de l'après-guerre, des actes après-guerre, mais que répondez-vous au rapport, hein? Il y a eu un rapport récemment d'un centre américain pour la prévention des génocides qui s'inquiétait du risque de violence à l'occasion de cette séquence électorale. Vous-même, à la rentrée du RHDP, c'est une paix durable. La paix n'est toujours pas sûre en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous craignez encore des violences? Comment on fait pour éviter, prévenir ces violences?
Nous ne craignons pas vraiment ces violences, mais nous prenons les précautions pour pas que ces violences arrivent. Hein. Le premier niveau, déjà, c'est que on essaie de faire, le RHDP essaie, avec les partis d'opposition, d'avoir un langage responsable. Parce que la première violence, c'est le langage. Si on a des langages, on a des hommes politiques responsables et qui contrôlent ce qu'ils disent et que c'est le débat d'idées qui prend le pas sur les injures, les invectives, je veux dire, on aura déjà apaisé la population. Et ça, c'est ce premier niveau-là. Et les politiques ont un engagement et une responsabilité importante. Il ne faut pas attiser le feu parce qu'on n'y gagnera. Personne n'y gagnera. On perdra tous la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier niveau. Le second niveau, c'est de mettre en place la confiance. C'est pour cela, dans la constitution de la CEI, tous les partis politiques ont participé. Ceux qui se sont retirés à la dernière minute pour des stratégies politiques, hein, c'était désolant pour nous. Parce que on voulait mettre en place une institution qui puisse permettre de valider les élections sans qu'on retourne dans des débats politiciens encore. Bon, ça n'a pas marché, mais on a quelqu'un comme Afi, Monsieur Afi, qui a adhéré quand même à cette CEI-là, qui est important, qui est important. Donc, on ne peut pas dire que cette CEI-là est manipulée. Vous pensez que le RHDP peut manipuler Monsieur Afi Nguessan? Non, je ne crois pas. Donc, je pense que c'est avec
adhésion. Il était à votre même place il y a une semaine, jour pour jour. Voyez.
Donc, je veux dire que il faut qu'on évite de faire de la politique politicienne à des endroits où on a besoin que les Ivoiriens se parlent.
C'est
et on a besoin que les Ivoiriens s'échangent et que les idées soient prioritaires.
Une réponse courte peut-être à la question sur pourquoi le RHDP ne mouille pas le maillot pour libérer Laurent Gbagbo.
Mais pourquoi vous dites que le RHDP ne mouille pas le maillot pour...
Je reprenais textuellement les propos de l'auditeur, hein, mon cher Tidiane.
C'est la justice qui a ce sujet en main.
C'est très clair. Merci à Ruffin. Je vais vous lire quelques messages. Il y a Sansi qui nous dit « Bonjour Africa Radio, le RHDP est devenu un grand parti aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ma question est que si le président de la République ne peut pas se présenter pour un nouveau mandat de la nouvelle constitution, alors il y a mal écrit mais on a compris plus ou moins qui va être candidat à la hauteur. On pose, on arrive à la fin à la question fatidique que Tidiane connaît. Qui sera le candidat du RHDP en 2020 et comment sera-t-il désigné? Et est-ce que si Alassane Ouattara annonce sa candidature, cela n'irait-il pas à l'encontre des principes de l'alternance?
Le RHDP est un vivier d'hommes politiques, devenant de tout horizon, de compétences diverses, des gens qui ont accédé à des postes.
Donc il y a plein de candidats possibles.
On a plein de candidats possibles au RHDP et le président de la République est l'une des options.
Peut-il être vraiment l'une des options, sachant qu'il a déjà fait deux mandats et que la Constitution, bien qu'elle ait été modifiée, limite le nombre de mandats à deux?
On est dans une nouvelle Constitution, on ne va pas entrer dans ce débat-là parce qu'on a une nouvelle Constitution. Et
pourquoi limiter le nombre de mandats si c'est pour après trouver des trucs et astuces pour remettre soi-disant les compteurs à zéro? Dans ce cas-là, que signifie la limitation de mandats? Elle n'a pas aucun sens alors.
On a une nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution permet au président de la République de se présenter en temps voulu, comme il a dit lui-même. Je me prononcerai premier semestre 2020. Mais au RHDP, il y a des candidats potentiels. On a un vivier de compétences et de cadres de haut niveau pour lesquels...
On a évoqué beaucoup Amadou Gon Coulibaly, mais apparemment, cette personnalité a du mal à imprimer dans l'opinion. Vous comprenez? Est-ce qu'Amadou Gon Coulibaly pourrait être un bon candidat pour 2020?
Ça pourrait être un très bon candidat.
C'est très clair. On continue ? Il nous reste quelques minutes.
J'aimerais qu'on parle un petit peu de la rentrée politique, parce qu'on n'a pas abordé le sujet de la rentrée politique du 2 novembre. J'aimerais qu'on en parle un petit peu quand même, parce qu'on a quand même un succès.
Je pensais que vous allez m'épargner ça quand même.
On a quand même un succès. On a quand même réuni plus de 6000 personnes. Aucun parti politique africain n'a réalisé.
Comment a été financée la rentrée politique ?
C'est le parti qui fait financer. C'est le parti. En Côte d'Ivoire, chaque parti politique a une dotation de l'État.
Ah !
Chaque parti politique.
Combien reçoit le RHDP de l'État ?
Je ne connais pas ce montant, mais c'est proportionnel. C'est des calculs qui sont faits. Je ne connais pas les textes. Mais sinon, chaque parti politique a une dotation de l'État. Et donc, c'est normal que ce parti utilise cet argent pour sa rentrée politique. Et nous avons réuni plus de 6000 personnes dans une salle. Aucun parti politique africain n'a fait une démonstration de force aussi puissante que celle
de publicité.
Et en plus, le monde était représenté. L'Europe était représentée, l'Afrique était représentée, les États-Unis étaient représentés. Hein. On a eu même des partis alliés de France qui sont venus soutenir.
La France sera un lieu important de la campagne du RHDP, c'est-à-dire sensibiliser beaucoup les Ivoiriens de France.
Il y a effectivement
aussi un vivier d'opposition, il faut le reconnaître.
Oui, hein. Mais c'est normal, mais on a prouvé par cela qu'on était, le premier parti. Le premier parti en Côte d'Ivoire, mais aussi le premier parti en France. Là, on l'a démontré, ce sont des faits.
Bon, on va prendre un dernier auditeur, si vous le permettez, vous savez, c'est leur émission. Camara, bonjour.
Oui, bonjour.
Je suis pas sûr que Camara est allé samedi à la rentrée du RHDP. Bonjour Camara, vous nous entendez ?
Oui, bonjour. Bonjour, je vous entends très bien. Mais ce que je voulais vous dire, votre invité là.
Il vous entend. Vous pouvez vous adresser, lui dire bonjour.
Il travaille dans la publicité, c'est bien ça. Parce que quand il parle d'émergence de quoi ? On voit rien nous. Et puis de toute façon, le RHDP a tripatué la constitution de Côte d'Ivoire. Pour essayer de remettre M. Alassane Ouattara au pouvoir. Et moi, je pense que la politique s'est faite intelligemment. Parce que si on arrive à garder les mêmes personnes tout le temps, je crois qu'on n'aura pas d'émergence. Il parle d'émergence, et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des familles qui n'ont pas pu inscrire leurs enfants à l'école parce que tout simplement, on a eu de payer une certaine somme qu'il peut pas, avoir. Donc, émergence, je sais pas de quoi il parle, construit deux, trois, quatre ponts.
Bon, le bilan n'est pas au rendez-vous. Vous avez une question, Camara, s'il vous plaît?
Pardon?
Vous avez une question, s'il vous plaît, Camara?
Bien sûr que j'ai une question. Je veux dire,
Une question, hein, pas une affirmation, hein.
Allô?
Allez-y. Je sais pas si vous entendez pas très bien, apparemment, Camara, hein.
Attendez deux secondes.
Ça vous avez peut-être un kit main libre, ça doit pas bien marcher du coup.
J'ai pas de kit main libre.
Bon, Camara, on va plus. Bon, soit vous me dites la question, allez-y.
Non, moi ce que je voulais dire, pourquoi est-ce que le parti politique au pouvoir ne laisse pas d'autres personnes qui viennent des autres régions?
J'ai compris et je vais vous faire peut-être une réponse, puisque vous parlez de réseaux de régions, c'est pas si c'est la question. On accuse souvent régulièrement le pouvoir actuel de faire du rattrapage régional. En 20 secondes, une petite réponse, Tidiane Koné. Que répondez-vous à ça? On le dit d'ailleurs, le rapport que j'ai cité tout à l'heure sur la prévention des génocides l'évoque également.
En Côte d'Ivoire, le RHDP est un rassemblement de partis. Des partis qui, avant, on disait qu'ils avaient une base régionaliste, mais ces partis étant rassemblés dans le RHDP, la base régionaliste se fond dans un ensemble. On avait des PCI, on disait que c'était un parti de l'Ouest, il n'y avait que les Yacouba, que les Guéret qui étaient dedans. Ils sont dans le RHDP. Il y a une partie du PDCI qui est Renaissance et le parti de Sulet Razoufoué qui sont dans le Zanzan, qui sont dans le Vébaoulé. Je veux dire, on a une partie on a dans l'armée, on a partie Hachi qui est dans l'armée. Ça, c'est pas du Nord, tout ça.
Donc c'est un parti rassemblant.
C'est un
bel parti
de la Côte d'Ivoire.
Merci
beaucoup. Parti d'Ivoirien.
Merci beaucoup, Tidiane Koné, d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation de la rentrée du RHDP France. À bientôt sur Africa Radio, j'espère. Merci à vous.
Merci
aux auditeurs qui ont joué des questions-réponses. N'hésitez pas à continuer le débat sur nos réseaux sociaux, notamment la page Facebook. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Nous parlerons du Mali. Que pensez-vous de l'appel d'Ibrahim Boubacar Keïta à l'Union Sacrée, 33 1 55 07 58 05 pour vous inscrire. À demain.